Bon, bonjour à tous et merci d'être venu ici pour écouter une table ronde avec des participants particulièrement distingués. Moi, je suis très impressionné d'être là pour parler des copains de Dracula que nous allons d'ailleurs étendre, hein, parce qu'il n'y a pas de raison de parler que de Dracula et de ses copains. On va parler aussi d'une manière plus générale de sa descendance vampirique au sens le plus large. Et donc, pour ce faire, nous avons Jean-Pierre Fontana, président fondateur du Grand Prix de l'Imaginaire et spécialiste en particulier du cinéma fantastique, hein, puisque nous attendons un ouvrage qui fera date à la rentrée donc sur ces genres de cinéma. Sophie Jomin, qui nous a donné déjà deux volumes des aventures de Felicity Hadcock, donc où ce sont des vampires assez particuliers, plutôt on pourrait dire un peu style, plutôt dans la tendance actuelle de la bitlite, quelque part. Voilà. Barbara Sadoul, qui, elle, a écrit des pièces de théâtre pour à la fois faire peur et amuser les enfants, des vampires tout à fait particuliers, comme vous le découvrirez. Morgane Cossarieux, qui avec Dans les veines, nous a donné là aussi une image des vampires tout à fait étonnante, et Fabien Clavel qu'on ne présente plus car c'est un écrivain qui a fait dans tous les domaines de la fantasy et du fantastique ainsi que du thriller jeunesse récemment, mais que nous allons écouter aujourd'hui pour ses romans d'une part Homo Vampiris et puis d'autre part la trilogie du Miroir aux Vampires. Donc, vous allez le découvrir, les copains de Dracula, ils sont quand même ils ont quand même pas mal évolué et ils se sont beaucoup différenciés au cours des années. Mais je pense que peut-être le mieux pour entamer cette table ronde, c'est d'abord de parler quand même du conte lui-même, hein, Dracula, et je vais demander à Jean-Pierre Fontana de nous parler un petit peu de cette image du vampire, parce qu'on voit tous Bela Lugosi et Christopher Lee dans l'image du vampire. Donc comment on est arrivé à cette image très stéréotypée quelque part du vampire, avant de voir ensuite son évolution, Jean-Pierre?
Ben, je commencerai d'abord par la première adaptation de Dracula au cinéma. C'est d'ailleurs la seule adaptation qu'il y a eu à l'époque du cinéma muet. Le film, vous le connaissez peut-être, c'est quand même un des chefs-d'œuvre du cinéma mondial, c'est Nosferatu, dont le titre n'est pas Dracula, puisque le réalisateur, les producteurs n'avaient pas pu obtenir les droits. Donc Nosferatu se présente de la manière suivante. On a pratiquement devant les yeux une sorte de mort-vivant, avec une tête, je dirais, qui peut ressembler un peu à un rat, avec des mains décharnées, et qui est souvent accompagné par des rats, et il symbolise vraiment la peste, puisque le vampire était dans la mythologie, dans les croyances, était souvent associé justement au phénomène de peste. Je signale, je ne le redirai pas, mais il y a eu une adaptation moderne, de Herzog, avec Klaus Kinski dans le rôle de Dracula, où on retrouvait un peu l'apparence donc qu'on avait dans le film de Murnau et qui a été interprété par un certain Max Schreck. Voilà. C'est donc la seule adaptation qu'on a, et dans lequel on a un vampire qui n'est absolument pas sympathique et qui va mourir parce que la femme donc qu'il convoite, hein, qui je crois que c'était Lucie, va le retenir jusqu'au lever du jour, et au lever du jour donc il s'est fait piéger et il va mourir donc sous la dame des premiers rayons du soleil. Voilà. On arrive après au cinéma parlant avec un premier film interprété par Bela Lugosi, où là le Dracula devient complètement différent. ça devient un séducteur. D'ailleurs, Bela Lugosi a eu durant sa vie un certain nombre de femmes, ça n'a pas arrangé sa carrière d'ailleurs, hein. Mais bon, peut-être que maintenant il plairait un peu moins, mais à l'époque c'était vraiment un séducteur, et on a un Dracula qui est totalement un séducteur, qui hypnotise, etc., et qui va en quelque sorte pendant je dirais plusieurs décennies être l'archétype du vampire au cinéma. Là, on a une différence par rapport au premier film, c'est-à-dire que pour le faire disparaître, il faut lui enfoncer un pieu dans le cœur, hein, et c'est ce qui va se passer. Bon, le cinéma parlant, toute la période Universal va réutiliser Dracula dans un certain nombre d'adaptations, où on va d'ailleurs le mêler avec d'autres créatures comme le loup-garou, Frankenstein, etc. Mais globalement, Dracula garde toujours un petit peu les mêmes caractéristiques, et même un petit peu avant le Hammer film qui va démarrer vers les années 58-59, certains films mexicains vont reprendre toujours un petit peu les mêmes caractéristiques. Je dirais un Dracula qui est relativement beau et qui a toujours l'aspect de séduction, qui quelquefois se transforme en vampire volant. Enfin bon, mais ça c'est des détails cinématographiques. Arrive donc la Hammer film, et la Hammer film va je dirais personnifier Dracula à travers Christopher Lee. Là aussi encore, on a quelqu'un qui a une certaine beauté, qui à la limite qui peut plaire aux femmes, si je puis dire, hein, et qui arrive donc de cette manière-là à séduire les personnes, enfin les femmes dont il va se servir pour se nourrir. Avec, je dirais, une petite différence peut-être par rapport à certains films d'avant, c'est-à-dire qu'il va créer autour de lui des femmes vampires qui vont, en quelque sorte, souvent l'accompagner. Hein. Alors, la Hammer Film a utilisé à de nombreuses reprises Dracula avec un certain nombre de différences. Bon, par exemple, entre Le Cauchemar Dracula et Dracula Prince des Ténèbres, dans un premier temps, on a un vampire qui parle, qui a une élocution, etc. Dans le deuxième, ça devient carrément un animal qui feule, etc., mais qui ne parle pas, par exemple. Et encore, pendant pas mal d'années, toutes les autres adaptations, je prends par exemple le Dracula de John Badham, où on a encore de nouveau toujours un Dracula séducteur. Bon, la disparition de Dracula sera différente selon les films. On a toujours le problème du dieu dans le cœur, le problème du soleil qui peut le détruire. Dans certains cas, c'est même également l'eau vive. Hein, si le vampire tombe dans de l'eau vive, il meurt. Il est déjà mort, je dirais, mais il va disparaître. Et je voudrais quand même revenir aussi sur un petit cas particulier. C'est un film qui s'appelait « Dans les griffes du vampire », un film américain qui est un western, et dans lequel il y a donc un vampire où là on va avoir un certain nombre de différences. C'est-à-dire que ce vampire-là, d'abord, va se promener dans la journée, ce qui n'était pas le cas peut-être auparavant. Bon, il a quand même, je dirais, il prend un certain nombre de précautions, mais donc il se sert d'un revolver, évidemment, comme ceux qui vont l'affronter, parce qu'il affronte des gens, je dirais, en duel. Et tous ceux qui lui tirent dessus, souvent, ils dégainent moins vite que les autres, mais comme les balles ne lui font rien, évidemment, il est toujours gagnant. Jusqu'au jour, et là vous allez voir un petit peu ce qui se passe par rapport à un autre mythe, c'est que pour le tuer, il faut utiliser des balles en argent, et là on rejoint le mythe du loup-garou. Donc, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que les années ont passé, et encore une fois, j'essaie d'être succinct parce qu'il y a du monde autour de la table, le vampire a énormément évolué. Bon, c'est vrai que par la suite, il a toujours gardé ses caractéristiques de beauté. On le voit d'ailleurs dans les séries actuelles du genre Vampire Diaries, etc., où les vampires sont toujours très beaux, ou en tout cas on peut les trouver beaux, mais les caractéristiques, la manière de le supprimer, si je puis dire, ont également, si vous voulez, évolué, mais on est quand même loin du mythe fondateur. Voilà, donc je vais laisser la parole maintenant à d'autres, parce que c'est quand même plus les romans et les nouvelles qui intéressent la table ronde. Mais c'est vrai que je pense que le cinéma a quand même énormément contribué à l'évolution de ce mythe et du personnage. Voilà.
Oui, absolument. Cinéma et séries de télévision, tu viens de citer Vampire Diaries, bon,
True Blood,
etc. Alors, c'est vrai, ça amène déjà à une caractéristique qui est reprise dans les romans de Sophie et dans ceux de Fabien, c'est que là, on a des vampires qui sont capables d'évoluer en plein jour. Donc, ça serait, je pense, peut-être intéressant maintenant, avec Sophie, avec Fabien, de voir pourquoi ils ont fait évoluer leurs vampires comme ça, qui en plus de ça sont des vampires qui sont jeunes, hein, puisque dans les deux cas, ce sont vraiment de très jeunes vampires qui vont encore au lycée, etc. Donc je pense que ça serait intéressant de voir pourquoi tous les deux vous avez pris des vampires comme ça qui ne correspondent plus aux caractéristiques habituelles. Alors Sophie, en premier.
Il y a en fait quelque chose de tout simple. Alors là, je pars pour le roman destiné aux adolescents. A priori, quand on est dans une famille saine et normale, à 14-15 ans, on ne sort pas la nuit. Donc on a quand même peu de chance de rencontrer un vampire en pleine nuit, dans une discothèque, dans un bar, enfin, mis à part les soirs d'hiver où le soleil se couche à partir de 18h. Donc, pour moi, si je voulais m'adresser à un public adolescent, donc à partir de 15 ans, et que je voulais lui faire rencontrer cette créature, il fallait d'une part qu'il puisse sortir le jour et puis le voir sous un nouvel aspect, et d'autre part, qu'il lui ressemble. Parce que, bon, on a beau être belle quand on est adolescent, on est quand même toujours un petit peu trouillard. Et si on a affaire à quelqu'un qui ne nous ressemble pas du tout, qui a des crocs dont longs comme des cure-dents et qui bave, je ne pense pas qu'on s'en approche trop. Donc l'adolescent idéalise pas mal les choses. Donc quand on écrit, on se met un petit peu à ce niveau-là. Et moi, j'ai pris parti de créer un personnage qui soit à son image, qui le fasse rêver, fantasmer, quant à sa force, quant à sa beauté, son intelligence, enfin peu importe. On y met un petit peu tout ce qu'on veut, hein, dans le vampire actuel. C'est un petit peu... c'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, on s'est beaucoup inspiré des films. Hein, c'est vrai, pour ma part, moi, le vampire qui m'a le plus fait fantasmer, ça reste le Dracula de Coppola, absolument magnifique. Et j'ai beaucoup de mal à l'imaginer autrement. Donc, ce vampire sort le jour, c'est indispensable. Et il est vrai, on lui laisse quand même les attributs de base. C'est-à-dire qu'un vampire qui ne buvrait que du jus de tomate, effectivement, pour un adolescent, ça ne fait pas trop. Donc on lui laisse quand même cette virilité qui est importante. Il est sexy, il est intelligent. S'il est riche, c'est pas trop mal. Et puis voilà, donc on en fait un personnage finalement qui est au goût du jour. Mais tous mes vampires ne sortent pas la nuit, puisque dans Felicity Hancock, là, je me suis vraiment servi des clichés de base, c'est-à-dire que il faut qu'ils s'enterrent la journée, hein, sinon ils grillent, hein, tout simplement. On fait un feu de joie avec. Il a des besoins charnels excessifs. Enfin, ça, c'est toujours le truc qui m'a beaucoup fait rire, parce que je ne sais pas où est-ce qu'il a été démontré dans l'histoire des vampires que le vampire avait un appétit sexuel insatiable.
Les premiers vampires cinématographiques, il n'y a pas d'acte sexuel, il y a un pouvoir attractif, je dirais, il va plutôt se servir, vampiriser, si je puis dire, les femmes plutôt que les hommes. Hein. Par contre, les vampires féminins, ça sera l'inverse. Mais cela dit, il n'y a pas d'acte sexuel pour une raison simple, c'est qu'un mort ne peut pas avoir de relations de ce genre. Hein. Mais par la suite, je veux dire, dans les romans plus modernes, je pense par exemple au roman de Cassandra O'Donnell, où le vampire, effectivement, a des relations. Hein. Mais bon, c'est tellement mieux. Puis il y a l'immortalité derrière. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très particulier aux vampires.
Moi, j'ajouterais juste que sur la sexualité du vampire, dans Dracula, déjà avec Bram Stoker, c'est pour montrer aussi les amours extra-conjugaux, donc il y a déjà cette dimension de la sexualité. Et puis c'est sûr que c'est pas la même sexualité, mais c'est quand même l'extase dans la morsure. Et puis dans les romans d'Anne Rice, ils arrivent quand même à le faire, même s'ils trouvent que c'est moins intéressant. Ça dépend des vampires.
Ça dépend des centres d'intérêt.
Oui, donc voilà, ce vampire actuel, pour ma part, je pense qu'il doit vraiment nous ressembler, avoir une vie comme la nôtre. On a besoin, pour des tas de raisons sociales, psychologiques, même financières, on a besoin de s'identifier à lui. Et à ce que je sache, on ne vit pas que la nuit. Donc on aime, on a aimé rêver devant ces nouveaux films, bah, Vampire Diaries, justement, j'ai dû regarder 3-4 épisodes, donc je ne suis pas très au fait. Mais c'est sympa de voir ce vampire assister aussi bien au bal de promo qu'au cours de maths ou compagnie. Enfin, je ne sais pas, on arrive à se rapprocher un petit peu plus de lui et à créer de véritables et belles histoires. Et je pense que si j'ai choisi dans Félicité Adcock de le faire vivre la nuit, c'est parce qu'on est avec des adultes et qu'a priori, quand on est adulte, on n'a pas vraiment de contraintes. Hein, on peut sortir à 3h du matin si ça nous chante, on n'a pas besoin de la permission de maman et papa. Mais dans le Young A, on en a quand même un peu besoin si on veut être crédible. Hein. Donc bon, je ne sais pas pour toi, Fabien, mais moi, mon parti pris, ça a été là.
Fabien.
Alors effectivement, moi, j'avais un peu les mêmes... ça s'adressait aussi à la jeunesse, donc on avait un peu les mêmes impératifs scénaristiques. Moi j'ai un autre fondement à cette idée, c'est-à-dire qu'au lieu de rester à Dracula et ses adaptations cinématographiques qui pendant longtemps, enfin, qui ne sortent pas, qui sortent pas au soleil, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans le roman, me semble-t-il, que je n'ai pas lu. Je préfère l'avouer tout de suite. Mais dans le film de Coppola, effectivement, il sort en pleine journée, il perd en fait ses pouvoirs. Moi je suis remonté un peu plus haut au niveau de la tradition vampirique. Je suis remonté en fait à ce qui serait peut-être la première figure vampirique, c'est-à-dire Lilith, qui apparaît dans la Bible comme étant, selon les commentateurs de la Kabbale, la première femme de
Satan.
D'Adam.
Oui, d'Adam.
Oui, c'est la première femme d'Adam, parce qu'on a deux créations de la femme dans la Bible, et donc il y a des commentateurs qui ont cherché à savoir comment ça se faisait, et il y en a qui ont dit, mais en fait, il y a deux femmes qui ont été créées, et la première, c'est Lilith. Et Lilith est beaucoup plus marrante que Ève, puisque, justement, c'est peut-être là qu'on a la source de la sexualité débridée du vampire, c'est que Lilith, justement, éprouve du désir, le montre, en plus, elle veut être plutôt dominante dans le désir, c'est-à-dire c'est elle qui monte sur Adam et pas l'inverse, donc tout ça, et elle ne veut pas d'enfant. C'est-à-dire c'est une sexualité qui est sa propre fin. Tout ça fait qu'évidemment, ce n'est pas une épouse tout à fait correcte dans les temps bibliques, et elle se fait éjecter assez rapidement. Et alors, il y a différentes interprétations, mais elle est frappée de stérilité, et c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, on retrouve d'ailleurs le mythe de l'ami dedans, qu'elle essaye de se venger sur les enfants en buvant leur sang. Et c'est comme ça qu'elle devient le premier vampire, puis elle est recueillie par le diable, qui s'en fait une alliée. Et donc moi, je suis parti plutôt de ce principe-là. Sachant que même si c'est donc effectivement un renversement de la vie du jour, etc., les vampires que j'ai réinventés d'une certaine manière dans Le Miroir aux Vampires, ce sont des vampires qui sont calqués un peu sur l'image de Satan, c'est-à-dire des vampires qui ont des crocs parce qu'ils sont ophidiens, ils ressemblent à des serpents, et j'ai créé toute une série de races vampiriques où chacun a des caractéristiques correspondant aux serpents. Il y en a qui font des bruits de clochette, bon ça c'est pas le plus intéressant, mais il y en a qui ont les crocs rétractiles, si c'est un peu plus pratique pour passer inaperçu, ce genre de choses. Donc voilà, ce qui fait que le jour, voilà, dans les romans, par exemple si on regarde de vampires, de Dreyer, il me semble que le vampire sort dans la journée et ça pose pas vraiment de problème, parce que je l'ai revu justement pour ma propre documentation. Donc c'est pas une caractéristique qui est fondamentale dans le vampire. Symboliquement ça peut être très fort, mais c'est plus marrant aussi effectivement de raconter l'histoire en faisant parler que la journée.
Mais dans ton cas en plus tu es aussi écarté parce que par rapport à la tradition où le vampire est un mort-vivant ou un non-mort, mais d'origine humaine, c'est un humain transformé, les tiens en fait ce sont d'autres espèces quelque part.
Oui, alors ça vient d'une idée complètement différente. C'était pas forcément pour rechercher l'originalité à tout prix, mais c'est quand j'ai voulu écrire, Papitlit avec des vampires, donc en respectant les codes, donc effectivement des adolescents au lycée, etc. Et je voulais essayer de trouver un biais un petit peu différent. Et je me suis aperçu que cette histoire du miroir où le vampire n'arrive pas à se refléter, c'est un motif finalement qui a été assez peu utilisé dans les différentes narrations. Et je me suis dit que j'allais partir de là. Et du coup, assez rapidement, le miroir comme lieu de passage vers un autre monde s'est imposé. Et du coup, j'ai imaginé que les vampires, en fait, avaient disparu parce qu'ils s'étaient fait virer par une autre race, parce qu'il y a toujours des histoires de race. Et j'ai pris une autre tradition vampirique, celui de la Strige, qui descend plus directement, semble-t-il, de Lilith. Donc il y a deux races vampiriques qui se tapent un peu dessus. Il y en a une qui réussit à virer l'autre et les envoyer de l'autre côté du miroir. Et là où je me suis amusé tout seul, parce que je ne pense pas que ce soit le plus important dans le roman, c'est que les vampires, en fait, disparaissent de notre monde au moment où se met en place la figure moderne, c'est-à-dire celle que nous, on a à peu près du vampire, c'est-à-dire aux environs du XVIIe siècle. Et là, je me suis fondé sur les travaux de Marigny, qui est le spécialiste français de la chose.
Alors, avec Morgane, Cossarieux, là on revient à des vampires très traditionnels, puisque ce sont des humains qui sont transformés, mais où on est là aussi très loin de l'image traditionnelle du vampire qui a la classe extrêmement sophistiquée, etc. Donc j'ai eu l'impression que là aussi tu voulais casser complètement cette image traditionnelle.
Bah alors moi, une de mes chansons préférées, c'est Bela Lugosi's Dead de Baos. Donc j'ai vraiment voulu aller contre cette idée du vampire aristo. Donc moi, mes vampires, c'est des gros junkies qui bouffent des gens dans des squats. Et j'ai voulu rendre hommage à toute cette vague de films de vampires des 80 que j'affectionne particulièrement. Donc Les Prédateurs, justement, qui est ouvert par la chanson Bela Lugosi's Dead, et qui met en scène Catherine Deneuve et David Bowie. Aux frontières de l'aube, dans un des premiers films de Catherine Bigelow, qui montre des vampires marginaux qui écument l'Amérique profonde dans un camping-car en montrant tout le monde. Quoi. Et Génération Perdue, sortie la même année, qui montre des punks beaucoup plus fun, c'est très californien, c'est très sympa. Et j'ai aussi voulu rendre hommage à Poppy Zeibright, qui est une de mes auteurs préférées, et qui a écrit Âme perdue, donc qui est un livre de voyage sudiste avec des vampires homosexuels qui s'amusent à briser un par un tous les tabous de l'Amérique. Et donc, moi j'ai voulu vraiment faire vivre ce mythe du vampire punk des années 80, parce que bon, je pense que ça doit, je suis restée bloquée dans les années 80. Et voilà, donc moi j'ai créé un groupe de vampires, dont un particulièrement qui est une ex-star du punk complètement déjantée et qui, je l'espère, permettra de faire vivre cette époque que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi écrit le roman vraiment en réaction à Twilight, parce que, comme tu le disais, donc le vampire, c'est vraiment une métaphore de la sexualité. Et au XXIe siècle, ça devient une métaphore de l'abstinence. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu retourné. Et j'ai voulu vraiment redonner sa sensualité au vampire et combattre cette idée du vampire comme ange garant des bonnes valeurs mormones, le puceau de 100 ans, sans dents, parce que pour moi, les dents du vampire, c'est un pénis de substitution. Quoi. C'est... par exemple dans True Blood, qui montre vraiment ça, le vampire a des canines énormes, puis dès qu'il y a une petite jumancelle, quelque chose qui tortille du cul, le vampire il te sort le truc comme as. Enfin, c'est complètement clair, quoi. Et donc voilà, j'ai voulu revenir à ça.
C'est pour ça aussi que souvent les vampires modernes, alors conduisent des belles voitures hyper puissantes, etc.
Le rapport à la taille.
Le rapport à la taille, toujours.
Je ne sais pas, oui. Généralement, ils n'ont pas de pénis, ils sont très complexes.
On reviendra peut-être là-dessus après, parce que je pense que la sexualité du vampire contemporain est un point intéressant. Mais avant, je voudrais quand même qu'on passe la parole à Barbara, parce que Barbara Sadoul, elle, avec les deux pièces de théâtre en particulier qu'elle a écrites sur les aventures de Carmilla, alors un nom déjà prédestiné, la fille du comte Belloc, donc on revient à l'image quelque part du vampire traditionnel aristocratique, sauf qu'il faut quand même lui préciser que quand il a rendez-vous, il faut qu'il pense à se laver les pieds, entre autres. Bon, passons, mais, et en plus, qui est un vampire végétarien qui ne boit que du jus de tomate. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est que Barbara Sadoul, on a le contre-pied total de tout ce qui vient d'être dit, puisque Barbara, elle, a décidé de s'adresser d'abord aux enfants et aux plus jeunes. Hein, comment peut-on faire pour à la fois effrayer les enfants tout en les attirant? Ils aiment bien avoir peur. Et moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ces deux pièces de théâtre, c'est qu'on les fait rire tout en leur faisant quand même peur.
Merci. Ben, de toute façon, moi, j'aime vraiment les mêmes vampires que Morgane. Hein, et je pense que j'ai dû rester sur les années 80, ce qui fait que le vampire Belloc, il ressemble à Travolta dans La Fièvre du samedi soir. Et quand il veut s'habiller, bon, lui, il veut sa cape, celle qui n'est pas cousue en poil de troll, sinon ça lui irrite la nuque. Mais il veut aussi son pendentif avec un crâne qui brille. Il veut hypnotiser le public, de toute façon. Donc, il est forcément dans la séduction. Et puis, il n'est pas quand même totalement végétarien. Il a un patch qui l'empêche de mordre. Donc, s'il l'enlève, je pense que c'est risqué pour les honnêtes mères de famille qui sont dans la salle. Et sinon, c'est vrai que moi, je donne beaucoup de cours de théâtre à tous les âges. Et je fais des ateliers d'écriture aussi avec les enfants. Et je dirais que le vampire, c'est peut-être le personnage qui leur donne confiance dans leur imaginaire. Quand ils n'osent pas écrire, si je leur dis on écrit une histoire sur les personnages fantastiques, sur les vampires, je leur montre aussi les photos que j'ai prises quand je suis allée à Crudenbay voir le château à côté duquel écrivait Bram Stoker. Je leur parle de la Nouvelle-Orléans où j'ai vu aussi les photos d'entretien avec un vampire. Enfin, il y avait encore la pancarte devant une des plantations. Aussitôt, ils ont envie d'écrire sur ce personnage. Alors, ils partent en général tout de suite sur le gore, mais ça s'arrête très vite. Et puis, quand ils sont petits, moi, je ne veux pas les conduire là-dedans. Donc, je leur dis, faites la carte d'identité du personnage que vous rêvez de mettre. On met pas mal de particularités de caractère, d'éthique. Et puis après, quand ils ont trouvé, par exemple, le vampire, comme le mien, il est accro au courrier du cœur, donc ça va peut-être être un tic chez lui. Et donc on essaye de trouver tous les codes sur le fantastique et puis de les détourner un peu par le biais de l'humour. Et du coup, ils osent vraiment écrire en s'amusant. Et puis je le fais faire en général à deux ou trois. Et puis ça peut donner des scènes qu'ils osent jouer. Alors après, pour que ça fasse peur, ils aiment bien de toute façon avoir peur. C'est peut-être eux-mêmes qui vont me réclamer. Je leur ai dit, pourquoi vous aimez autant les vampires? Mais parce que ça nous fout la trouille, hein. C'est ça qu'ils vont dire. Et au théâtre, c'est assez simple, je trouve, de faire à la fois de l'humour et un peu peur, puisqu'il suffit de répéter les intonations de voix, la surprise d'un personnage qui surgit. Et là, ils sont en train de travailler dans un de mes groupes sur ma première pièce, Pustule et Sortilège. Et ce qu'ils aiment bien, c'est que je répète avec eux aussi. Donc, si moi, je prends une grosse voix, c'est là où ils vont sursauter. Et ils vont s'entraîner aussi à faire de l'hypnotisme, un peu comme dans le film Ed Wood, quand ils s'entraînent devant la télé. Sinon, pour finir sur la sexualité du vampire, il y a un autre roman, je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est Un vampire ordinaire de Suzy Magui-Charnas, où là, il peut réellement avoir des rapports sexuels normaux. Il n'a pas de crocs, il vient d'une autre planète, enfin, c'est une autre espèce, il est peut-être le seul. Et il est quand même assez dangereux, puisque lui, il a un aiguillon sous la langue, donc il vaut mieux éviter de l'embrasser, je pense. Mais c'est l'un des vampires que j'aime bien aussi, puisqu'il... c'est un vrai prédateur, et puis en même temps, s'il approche un peu trop des humains, du coup, il se met lui-même en danger. Et donc, ça pose toute la question de qui il est vraiment et de la différence. Et moi, j'aime bien ces invitations à la tolérance. C'est aussi pour ça que j'écris plutôt pour tous les âges que pour la jeunesse.
Tout n'a pas été dit sur les vampires en général, parce qu'effectivement, il me semble que l'un des aspects qu'on a déjà en partie abordé et qui est sans doute, à mon avis, l'un des aspects les plus importants aujourd'hui dans la littérature vampirique au sens large et en particulier dans la bitlite, c'est qu'effectivement, le vampire masculin est capable d'effectuer, de remplir un certain nombre de devoirs plus ou moins conjugaux, puisqu'en général il reste quand même relativement traditionnel et qu'il tombe amoureux et qu'il a toujours envie de se marier avec une jeune femme. Donc, mis à part l'aspect biologique, on se demande comment ça fonctionne, puisqu'il n'y a plus de circulation du sang, mais enfin on ne va pas rentrer dans les détails. Mais je pense que c'est un point sur lequel il serait quand même intéressant de revenir, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez central dans la plupart de vos romans, y compris dans tes pièces, parce que il y a quand même le comte, il a quand même des besoins, il veut se marier avec une humaine. Dans le miroir aux vampires, il y a quand même des relations plus qu'ambiguës entre Léa et Nora, etc. Les vampires de Morgane, alors là, bon, il se livre à toutes les débauches possibles et imaginables. Je pense qu'il n'y a guère que le chien qui y échappe. Hein, et encore, bon, chez Sophie, c'est un peu plus restreint, mais quand même. Alors, je pense que ça, c'est vraiment un aspect, alors si on revient, parce que j'essaye toujours de conserver quand même le fil conducteur de la table ronde, qui est les copains de Dracula. Chez Dracula, et ça Jean-Pierre va pouvoir nous en reparler, c'était très fortement sous-entendu, mais parce qu'on est à une époque où on n'en parlait pas. Et puis ensuite, je pense qu'il serait intéressant de voir comment aujourd'hui on peut exprimer tout ce qui était sous-entendu à l'époque. Alors Jean-Pierre, peut-être déjà, la sexualité de Dracula à l'époque, tu avais commencé à l'aborder un petit peu, mais si tu pouvais développer.
Elle est déjà très apparente, enfin surtout à partir des premiers films de la Hammer, notamment le baiser du vampire, l'entretien qu'il a avec les femmes qu'il va aborder sont déjà marqués. Il y a beaucoup de sensualité dans ces rapports. Je me souviens même d'une scène où il découvre son torse. Et avec son ongle, voilà. Enfin, il y a des scènes comme ça qui sont, je dirais, vraiment qui montrent une certaine sexualité. Mais parce que, je vais peut-être sauter sur autre chose, une sexualité qu'on n'a pas du tout abordée. Et ça tombe bien parce qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, à la Chambre des députés, un vote sur l'homosexualité. Un roman qui est antérieur à Dracula, qui s'appelle Carmilla, de Sheridan Le Fanu, et qui a donné lieu à plusieurs films, où là, on a des amours saphiques. Et c'est assez curieux, d'ailleurs, parce que on dirait que la littérature actuelle a peur d'aborder ce type de problème, et c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de postérité de ce type de rapport entre vampires.
Il y a un roman de Tony Mark, où là, ce sont des vampires homosexuels. Et puis, il y avait le film de Polanski.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a True Blood aussi, qui est vraiment, le vampire homosexuel, en métaphore de l'homosexualité, et on voit et des homosexuels et des vampires homosexuels. Donc ça appuie bien quand même. Et il y a quand même une problématique qui est abordée dans True Blood, parce que le vampire, on se peut se demander qu'est-ce que vient faire le vampire pour métaphoriser l'homosexualité s'il y a déjà des homosexuels dans la série. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que le vampire homosexuel de True Blood, il essaye de s'intégrer à la société, entre guillemets, hétérosexuelle, mais justement, en essayant de cacher ce qu'il est réellement, donc les vrais, entre guillemets, les vraies valeurs des homosexuels, donc, qui étaient quand même la liberté sexuelle, la fête, le milieu de la fête. Et là, il y a quand même ce problème qu'on essaie de transformer les homosexuels en des substituts d'hétérosexuels en leur enlevant leur identité propre, et c'est ce que dénonce True Blood, je pense, avec ça.
Ah, à la fois dans True Blood, le vampire homosexuel phare reste le roi de Louisiane, je crois. Il ne s'en cache pas. D'ailleurs, le mariage est même approuvé.
Très up to date. Oui, il se trompe et ça entraîne la mort justement de son amant.
Alors, c'est marrant, mais je ne l'ai pas vu comme ça. Ce que j'ai vraiment aimé dans True Blood, c'est qu'on n'en fait pas tout un plat. C'est comme ça.
ça se passe. À aucun moment on les montre du doigt. Regardez, ils sont différents, super open, c'est génial. Non, c'est d'une normalité absolue. Enfin, de toute façon, ça n'engage que moi de le dire. Ça devrait être comme ça, hein, ça se passe. Et le focus ou pas sur le vampire homosexuel, quelle que soit la littérature, à mon avis, c'est pas le sujet. On ne devrait pas chercher un prétexte pour justifier telle ou telle cause. Et d'un autre côté, je veux dire, montrer ce qui est normal ou pas. Voilà, moi j'ai pris parti dans ce roman-là, qui est complètement déjanté, sans prétention et plutôt drôle, hein, ça a été mon truc. Les vampires ne se soucient pas de sexualité ou pas, ils font ce qu'ils ont envie de faire, point. Peu importe ce que peuvent penser X ou Y personnes. Alors oui, il est vrai, ils ont une sexualité très débridée, mais il ne faut pas être homosexuel pour ça, être hétéro suffit largement. Et je dirais que, ben oui, ils ont un petit peu tendance à sauter sur tout ce qui bouge. Alors, je ne vais pas très loin dans les descriptions, parce que je ne suis pas à l'aise, mais parce que ben, j'avais pas envie d'écrire ça vraiment. Mais oui, je reprends ce que tu disais tout à l'heure avec la nana qui se dénude, les crocs qui sortent comme ça. C'est un peu l'effet du bouchon de champagne, on a tous compris. C'est vraiment l'afflux de sang à ce moment-là, on peut le dire. Hein. D'ailleurs, c'est techniquement assez incroyable, mais pour autant, ça fonctionne. Et je crois que c'est vraiment indispensable de donner cette sexualité-là aux vampires. Pourquoi ? Parce qu'on est toujours dans l'ordre du fantasme. Qu'on soit timide ou pas, on en a tous. Et je crois qu'on arrive dans l'ère du temps avec cette littérature qui parle de dévoilement à 50 Shades of Grey. On a besoin de s'exprimer sur la sexualité, de ne plus avoir de tabou, etc. Et ce qui est génial, c'est que le vampire est un être fantastique, donc il était un petit peu fantastique, alors on le dit sans le dire, et maintenant on arrive à des romans qui sont contemporains, donc 50 Shades, c'est un truc qui pourrait vous arriver à tous et à toutes, hein. Il n'est pas question de fantastique, quoique, mais voilà, donc aujourd'hui on s'émancipe totalement, donc les femmes, bon, puisque la Bible est quand même une littérature plutôt féminine, ces messieurs aiment la lire. Et oui, ça permet aux femmes d'avouer ce qu'elles aiment, ce dont elles ont envie, sexuellement, financièrement, etc., sans trop se cacher. Et le vampire, c'est un bon prétexte, puisque tout lui est permis finalement, puisqu'il est si vieux, puisqu'il a tant d'expérience, si sage, si raisonnable.
Barbara, Fabien ?
Oui, pour revenir sur le vampire, effectivement, qui a une sexualité débridée, puisque c'est le sujet, si j'ai bien compris.
C'est devenu le sujet.
Oui, devenu le sujet. Mais l'idée, effectivement, c'est que on se heurte à plusieurs choses. Bon, alors, le vampire est beaucoup utilisé comme métaphore de la sexualité, hein, et là-dedans, on retrouve, pour moi, une polarité entre ceux qui aiment Buffy, où le vampire, effectivement, sert de métaphore à l'apprentissage de la sexualité et même du passage à l'âge adulte. Hein, c'est vraiment une série d'adolescence, au sens moins du terme. Et de l'autre côté, effectivement, une série sur l'abstinence qui est Twilight. Et donc, il faut choisir son camp entre les deux. Le mien est choisi, je pense que c'est le cas de la plupart des personnes ici. Donc moi, d'ailleurs, j'étais parti sur Buffy. Mais effectivement, on a toujours ce problème du vampire qui est quand même un mort-vivant. Et comment un mort-vivant peut-il avoir des relations sexuelles ? Alors, c'est un petit peu embêtant. Moi, du coup, comme tu disais tout à l'heure, ils ne sont pas morts. Il y en a qui sont des créatures venues d'ailleurs. Dans un autre roman que j'ai fait, qui s'appelle Homo Vampiris, c'est traité sous un autre thème, parce qu'on a parlé beaucoup de Troublotte, qui réutilise très très bien la plupart des métaphores disponibles autour du vampire. La différence, la sexualité, l'addiction aussi. Et moi je voulais traiter le côté parasite du vampire, c'est-à-dire qu'il ne survit que quand même en tuant les autres. En tout cas, en leur piquant quelque chose. Et je pense qu'il y a un lointain rappel du côté aristocratique de Dracula, qui est quand même quelqu'un qui vit sur des terres, il y a des paysans qui travaillent pour lui, etc. Enfin, moi, je pense qu'on peut voir une petite idée dans tout ça d'exploiteur. Et donc, dans mon vampiris, j'ai poursuivi ça jusqu'au bout. Donc, les personnages sont vivants. Ce sont des personnes normales qui sont atteintes justement d'une maladie qui est issue d'un parasite et qui les transforme en espèce de vampire. Et ce qui fait d'ailleurs que ce sont de véritables parasites, c'est qu'ils ont du mal à se reproduire. C'est-à-dire, au lieu de transformer tout le monde et n'importe qui en vampire dès qu'ils en ont envie, en fait, ils n'y arrivent pas. Donc, ils sont vraiment coincés et c'est très difficile pour eux. Et évidemment, moi, j'ai mêlé ça, parce que ce qui fait aussi le succès des figures du vampire actuellement, c'est qu'il va permettre de mettre en place plein d'idées contradictoires. Enfin, c'est une espèce d'oxymore, le vampire, parce que c'est celui qui est à la fois mort, donc il devrait être repoussant, etc., mais en même temps, il n'est pas mort, il reste beau tout le temps, etc. En même temps, effectivement, on parlait tout à l'heure avant de commencer, il consommait du sang en permanence, il devrait avoir une haleine de chacal.
Donc
pour aller draguer comme ça, c'est pas possible. Et donc, celui qui arrive, on arrive à tout avoir avec le vampire, c'est-à-dire à faire tout et n'importe quoi sans en subir les conséquences. Et du coup, moi, les vampires que j'ai dans mon vampirisme, je les ai projetés un peu dans l'avenir, et c'est justement un moment où on arrive en pleine dépression pétrolière, et où j'ai établi des petites métaphores sympatoches entre la fin du pétrole et les vampires qui n'arrivent plus vraiment, qui là, cette fois-ci, en plus, sont poursuivis, parce qu'on y voit un moyen de sauver l'humanité. Mais voilà, effectivement, donc, là-dedans, le fait qu'ils soient immortels, leur permet aussi d'être des êtres amoraux. La morale n'a plus d'importance pour eux. On peut parler du thème de la croyance aussi, c'est-à-dire à partir du moment où un immortel a tant besoin de croire en Dieu, et du coup, est-ce que la sublimation reste possible pour des créatures comme ça? Moi, je suis parti du principe qu'ils étaient incapables de sublimation. Donc tous ceux qui pratiquent des arts, une fois qu'ils sont devenus mortels, ne font que répéter des gestes, mais de façon mécanique, sans plus du tout éprouver vraiment ce qu'ils ont. Et cette course à la sexualité, on peut la retrouver aussi que dans le même type d'idée. C'est-à-dire, ils reproduisent la sexualité, mais sans qu'il y ait la flamme, forcément.
Ouais. Barbara.
Moi, ce que j'avais aimé quand j'avais lu Les Prédateurs, c'était justement qu'ils cherchaient un compagnon, et c'était un personnage, le personnage de Myriam, qui était une sorte de personnage extraterrestre, et qui cherchait un compagnon, et donc, quel que soit son sexe, si elle tombait amoureuse d'un homme ou d'une femme, ça n'avait pas d'importance, c'était l'amour qu'elle ressentait. Et dans la pièce de théâtre, oui, le comte Belloc veut chercher une compagne parce que être immortel sans personne, c'est souvent le problème dans ce genre de texte. C'est pour ça que quand j'avais fait ma maîtrise, c'était sur la solitude du vampire. C'était pour voir comment il pouvait supporter et qu'est-ce qu'il devenait. Et j'avais vraiment aimé Âme perdue aussi. Il y avait la notion du miroir aussi. Qu'est-ce qu'on deviendrait si on vieillissait jamais? C'est peut-être le temps à l'état pur qui nous vieillirait, c'est ce qu'elle expliquait. Et donc, en étant seul et en même temps, comme le vampire, quand il transforme quelqu'un, il le transforme peut-être vraiment, c'est plus la même personne qu'il a en face de lui. Donc, ça pose toute une problématique.
C'est vrai qu'on a vu un certain nombre de romans qui se sont penchés justement sur comment un vampire qui par essence est immortel, ou du moins vit excessivement longtemps, qui est né dans des temps anciens, est-il capable de s'adapter aux changements du monde moderne, changements qui sont de plus en plus rapides. Je pense aussi au roman de Jacques Sadoul, La Drusilla, qui était sorti, et où on a à l'origine Drusilla, c'est une romaine de l'époque de l'Empire, et qui exprime toute sa difficulté à s'adapter. Elle vit dans le Los Angeles des années 2000 et elle exprime toute sa difficulté à s'adapter au téléphone portable, à l'internet, il y a des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une problématique qui est tout à fait intéressante. Mais comme je vois que le temps a tourné très vite, si nous voulons pouvoir répondre, que nos intervenants répondent, alors Jean-Pierre, et ensuite on va passer aux questions, parce qu'après ça on va nous faire les gros yeux à 15h pour s'arrêter sans dépasser. Donc Jean-Pierre et ensuite la question.
Je voulais d'abord un thème qu'on n'a pas abordé non plus, et il y a un film fondateur qui s'appelle Le baiser du vampire, on va retrouver ça avec Le bal des vampires, c'est-à-dire la société vampirique qui va former, c'est un peu à l'image d'une secte. Donc c'est un sujet, le vampirisme pourrait nous en tourner très loin. Une autre remarque aussi qui m'est venue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs à la cathédrale de Reims à l'occasion d'une exposition où je me suis dit mais d'où vient le mythe du vampire, et j'ai pensé au Christ. Et effectivement, le Christ parle de vie éternelle si on boit son sang, etc. Et dans la mesure où, effectivement, le vampirisme naît dans des sociétés chrétiennes et non pas... voilà. C'est juste les deux remarques que je voulais faire.
Très bien. Alors, pour l'année prochaine, je passe la parole à Sophie. Mais donc, nous prenons rendez-vous l'année prochaine pour une table ronde sur le vampire et la société vampirique.
D'ailleurs, sujet que vous abordez, l'Évangile des damnés de Dalic aborde très très bien ce sujet de l'origine du vampire par le sang de Christ. C'est une magnifique trilogie, je vous encourage à la lire. C'est absolument passionnant de voir, selon lui, comment est né le vampire. C'est juste à partir.
Ok. Alors, les questions.
Bonjour, merci encore pour cette table ronde très intéressante. Alors j'ai quelques remarques et une question à faire. Alors les remarques, Sophie, tu parlais de Fifty Shades of Grey. Il faut se rappeler que c'est à la base une fanfiction, un récit non officiel de Twilight. Donc première chose. Et vous parliez de la sexualité, l'homosexualité dans True Blood ou l'abstinence dans Twilight. Twilight, c'est écrit par une mormone, donc avec tout ce que cela implique. True Blood est écrit par un scénariste de très grand talent homosexuel, donc cette idée de société idéale sans marge, sans dogme. Et Anne Rice, qui est une ancienne catholique pratiquante, qui a perdu la foi en Dieu, qui est devenue athée, d'où l'écriture d'entretien avec un vampire, et avec notamment une tragédie personnelle qui a donné naissance à un bouquin. Vous parliez, Jean-Pierre, du sang du Christ. Il y a aussi un côté très religieux, et moi j'ai pensé à un film assez récent produit par Wes Craven qui s'appelle Dracula 2001 en France, où Vlad Tepes, en fait, n'est autre que Judas. Et il y a une méthode qui permet de tuer, enfin, de repousser les vampires outre la gousse d'ail, qui est le crucifix. Et l'idée de la crucifix, c'est que dans le film, apprend que Judas, en trahissant le Christ pour 5 pièces d'argent ou d'or, en fait, cette allergie à l'or et à la croix, c'est. Voilà. Et je voulais savoir ce que vous en pensez. Merci encore. C'est une question un peu mal formulée.
Je crois que dans la mesure où on parle d'une créature maléfique, presque antéchriste, on a besoin d'utiliser les codes bibliques. Je ne veux pas rentrer dans la religion même. Mais pour la chrétienté, on a toujours utilisé des choses qui parlent pour évacuer le mal. Donc, je trouve ça très logique finalement ce qu'a fait ce monsieur. Les pièces d'argent qui en viennent, bon voilà, alors c'est l'argent qui va tuer le vampire. Judas, c'est le maléfique. Le sang du Christ, c'est ce qui rend le premier vampire. On a toujours besoin de se trouver des prétextes et des causes. Enfin, le vampire, ça reste quand même une créature imaginaire, d'accord. C'est mon point de vue. Je te laisse le tien. Ça reste une créature imaginaire et je pense qu'il ne faut pas trouver un fondement obligatoire au vampire dans la religion ou etc. Parce que si on en vient par là, ça commence effectivement par Lilith. On a aussi la naissance des vampires par les striges et ça n'avait absolument rien à voir avec la chrétienté ou quoi que ce soit. Les striges bouffaient des enfants par exemple, c'est un super mythe de vampire.
Vous voulez intervenir ? C'est vrai, pour rebondir quand même là-dessus, qu'on va passer à une autre question, mais c'est vrai qu'au XVIIIe siècle, quand le vampire apparaît vraiment dans le monde occidental, hein, c'est avec les livres de Don Calmette, etc., ce sont des enquêtes qui sont faites par les soldats, les militaires de l'Empire austro-hongrois aux frontières de l'Empire, dans des zones qui sont d'ailleurs orthodoxes. C'est tout à fait intéressant. Et là, à l'époque... C'est considéré effectivement comme réel. Mais bon, c'est un autre point, de même que je pense, si personne ne veut rebondir sur l'aspect de la réaction aux signes religieux, etc., l'aspect religieux pour repousser le vampire, On va peut-être Morgane, et puis ensuite on passe à une autre question.
Je voulais juste ajouter qu'on est passé d'un vampire antéchrist à un vampire Christ. Et je pense que ça s'est passé avec Anne Rice, quand au début Lestat est quand même un vampire méchant, donc l'antéchrist. Et à partir du cinquième tome, quand Anne Rice retrouve sa foi catholique, il va rencontrer Christ et boire le sang du Christ, et ensuite redistribuer le sang du Christ. Et donc là, le vampire donne l'Eucharistie par son sang. Et c'est à partir de là qu'on peut avoir des vampires comme Édouard qui sont des anges et plus des anges déchus.
Bien. Une autre question ?
Je pense que le vampire en est une, et
il a une image, il a une image psychologique très importante. Donc, oui, voilà, c'est exactement ça, hein, finalement, on peut trouver plusieurs formes. Réalité, je ne pense pas.
Fabien.
Moi non plus, sinon je n'écrirai pas dessus, ce serait trop dangereux. Non, tout ça, c'est pour moi des métaphores, des mythes qui renvoient effectivement à des réalités, mais pas parce qu'il y a des vampires qui existent, mais il suffit d'ouvrir par exemple le dictionnaire des symboles à l'entrée vampire, et la manière dont il le présente, on n'est pas forcé d'être d'accord, hein, mais pour les auteurs de ce dictionnaire, c'est la symbolisation des forces psychiques retournées contre soi-même. Voilà. Alors après, on fait ce qu'on veut, mais c'est vrai que c'est une métaphore, un symbole, une image. Tout ça, c'est de l'ordre de l'imaginaire.
Mais ce que je voulais dire, toujours pour rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que quand on reprend, par exemple, le roman de Bram Stoker, et l'origine d'ailleurs du vampirisme, on a des personnes qui refusent la mort, qui sortent la nuit évidemment pour essayer de survivre, mais qui sont obligés de retourner dans leur cercueil, et ils ont une espèce de vie, je dirais, enfin voilà, c'est des non-morts, mais c'est pas des vivants. Hein. Or, au fur et à mesure que les années vont passer, le vampire va devenir de plus en plus sympathique, et pour quelle raison? Parce que lorsque, donc au 19e siècle, les gens avaient une vie relativement courte. Donc, on est, je dirais, à la limite, dans des romans où on essaie de refuser la mort parce que la vie, effectivement, est très courte. Actuellement, la vie humaine se prolonge de plus en plus. On entend parler maintenant que dans quelques années, on pourra peut-être vivre 150, 200 ans, etc. Ça, c'est pas nouveau. Or, le vampire, c'est un petit peu, je dirais, l'immortalité qui est là. Et en fait, c'est l'aspiration, je dirais, des gens de notre époque. On peut vivre davantage, on a réussi à vaincre des maladies. Donc, quelque part, le vampire représente ce qu'on aimerait être.
Barbara, Morgane.
Alors, ce qu'on voudrait être dans le vampire positif, alors pas au détriment des autres.
Oui, bien sûr.
Moi, je pense des vampires positifs, j'en croise tous les soirs en soirée, hein. Des adeptes de Father Sébastien, hein, qui portent des crocs et qui croient à la puissance du charisme et de recueillir les ondes des autres pour exister. Donc, voilà.
Je dirais juste que pour répondre à ta question, mais vraiment dans le domaine de l'imaginaire, c'est Jean Marigny, celui qui a écrit beaucoup sur les vampires, qui disait qu'à chaque période économique difficile, eh bien, on avait besoin justement d'histoires de vampires, d'histoires sur d'autres créatures imaginaires pour s'évader dans l'imaginaire.
Et c'est vrai, il faut pas oublier que le vampire a servi à qualifier les banquiers pendant très longtemps. Je termine là-dessus. Les banquiers, les plutocrates qui vampirisent le sang du peuple, c'est une image qui parle depuis près d'un siècle maintenant. Bon, sur ce, et en attendant de se retrouver l'année prochaine donc pour parler du vampire en société, je pense qu'il nous reste qu'à remercier nos 5 intervenants pour cette table ronde passionnante.